Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.com.
Marseille, août 1973. Qui s'en souvient? La ville était en proie à une flambée de violence sans précédent. Les cibles, les immigrés algériens. Celle était meurtrière.
Toutes les choses, on les accepte. Le travail dégueulasse, le logement, mais d'être assassiné comme un chien, ça, on l'accepte pas.
L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il encaisser encore les coups? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
On m'a demandé d'oublier les années de saignée, le mépris planifié à tour de bras renouvelé, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées balafrées. On m'a demandé d'oublier ces rayons de gloire qu'a pu darder une nation à nous expédier en charbon, des années après l'industrie te perfore les poumons, sinon pas déjà tâté les balles au front, en première ligne, chair à canon. On m'a demandé d'oublier les noyades occultées d'une dignité, sa mémoire, les chapes de plomb, les écrans noirs, plaqués sur toute l'étendue des brûlures d'une histoire, et le prix des soulèvements, les trop pleins.
Au sommaire aujourd'hui, un épisode de Culture Prohibée entièrement consacré à Marseille 73. Un roman noir disponible dans la collection Equinox aux éditions Les Arènes, signé Dominique Manotti, la patronne du polar français, un ouvrage sans concession qui nous plonge dans l'ambiance nauséabonde de la France du début des années 70, plus précisément à Marseille, ville où, en 1973, les ratonnades se sont multipliées. Nous allons de suite évoquer cet ouvrage en compagnie de son auteur, Dominique Manotti, donc Dominique Manotti, auteur de Marseille 73, au micro de Culture Prohibée. Bonjour Dominique Manotti.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Ah bah, vous savez, vous êtes une habituée de l'émission, et puis oui. Vous savez que j'aime particulièrement vos ouvrages. Voilà.
Et je vous en suis reconnaissante.
C'est réciproque, parce que bon, c'est pas toujours simple, vous savez toujours vous rendre disponible. Et là, vous vous rendez disponible pour un livre justement qui s'appelle Marseille 73, qui est paru dans la collection Equinox aux éditions Les Arènes, et qui raconte une partie de l'histoire de France. C'est un roman noir qui se passe en 73. La France connaît donc une vague d'assassinats, beaucoup d'Arabes, surtout des Algériens, hein, vague de ratonnades. Hein. En 6 mois, plus de 50 d'entre eux sont abattus, dont d'une vingtaine, à Marseille. Épicentre donc du terrorisme raciste. Tout ça s'inscrit dans un contexte bien particulier, hein, celui de, parce que malheureusement votre roman s'inspire de faits réels auxquels va être confronté votre héros récurrent Théo d'Aquin. Ce sont des faits bien réels, donc survenus dans la France du début des années 70. Est-ce que vous pouvez un peu nous remettre dans le contexte, nous replonger dans cette époque?
Écoutez, ce sont des faits absolument réels. Sur les faits, je n'ai rien inventé. J'ai par contre, mes personnages sont fictifs. Mais les faits sont réels. Et si vous voulez, on est en pleine période. C'est le grand trou noir de l'histoire française. On en a régulièrement beaucoup des trous noirs chez nous. C'est une spécialité, le trou noir. C'est-à-dire que le roman historique qu'on se raconte, le roman national, fonctionne sur le déni d'un certain nombre de choses moins reluisantes et qu'on n'intègre pas dans l'histoire nationale. On a eu évidemment l'occupation et le rôle de Vichy, qui a longtemps résisté à l'historien. Il a fallu que ce soit les Américains qui s'y collent pour qu'on commence à savoir ce qu'on avait vraiment fait. Mais le trou le plus récent et qui est gigantesque, c'est celui de la colonisation et de la décolonisation. Et on est à 11 ans de la fin de la guerre d'Algérie et c'est une guerre qui ne passe pas. C'est pas une guerre qui ne passe pas, c'est une défaite qui ne passe pas. C'est-à-dire que voilà, la décolonisation marque très profondément la société française, amertume, regret, fausse histoire, justification, oubli, et ça alimente une flambée raciste dans laquelle va s'enraciner le Front National. Le Front National naît en 1972, juste avant, et avec un certain nombre d'autres groupuscules d'extrême droite. Il est à l'origine du lancement d'une campagne dont le thème central est « Halte à l'immigration sauvage ». Et c'est dans ce contexte-là que s'enracine le Front National. C'est sa matrice. Et c'est pourquoi le moment est extrêmement important. Cette année 73 est très importante parce qu'elle donne naissance à l'extrême droite actuelle française. L'extrême droite d'avant était beaucoup plus antisémite et beaucoup moins marquée par les problèmes de la colonisation. L'extrême droite française actuelle naît dans la haine de la décolonisation et des pays anciennement colonisés. Voilà. Donc c'est vraiment important, oui. me semble.
Et puis c'est aussi la fin des Trente Glorieuses qui amène le gouvernement à mettre en place la circulaire Marcelin Fontanet qui lie le titre de séjour au contrat de travail et qui est vraiment au centre de votre livre aussi.
Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est le déclencheur. C'est-à-dire il y a cette haine recuite qui n'a pas encore, enfin qui trouve en 72, donc avant la circulaire Marcelin Fontanet, qui trouve naissance, qui donne naissance au Front National. Et puis la circulaire Fontanet-Marcelin essaye de réguler l'immigration avec comme objectif de renvoyer chez eux un certain nombre d'immigrés pour faire de la place à la main-d'œuvre française. Raisonnement qu'on retrouve périodiquement. Hein. Et effectivement, cette circulaire, si vous voulez, dit en gros que pour avoir une carte de travail, un immigré, pour être légal, bon, un immigré doit avoir une carte de travail, donc un contrat de travail et un logement décent. Un contrat de travail qu'il ne peut pas d'ailleurs résilier. Dans la circulaire Fontanet et Marcelin, une fois qu'il a un contrat de travail, il ne peut pas quitter son employeur. Je ne sais pas si vous imaginez. Et s'il quitte son employeur, il est immédiatement renvoyé chez lui. Donc, cette circulaire Fontanet-Marcelin donne l'occasion, c'est l'étincelle qui met le feu à la plaine. C'est-à-dire qu'à partir de là, les travailleurs immigrés essayent de s'organiser pour demander une carte de travail et pour essayer d'avoir des papiers. Et c'est le début d'une série de grèves de la faim, animées surtout par des Tunisiens, qui obtiennent des résultats, mais des résultats ponctuels, on va dire, pour certains groupes, etc. Et puis, bah, dans la foulée, si vous voulez, campagne de l'extrême droite sur le thème « Halte à l'immigration sauvage », l'immigration sauvage étant celle qui n'a pas de carte de travail et de logement décent. Et les grèves, etc., et la vague, si vous voulez, d'attentats, d'assassinats, de grèves en réponse à ces assassinats qui vont marquer toute l'année 73. La circulaire sera retardée, la mise en application retardée, puis un peu changée. Mais grosso modo, la politique de renvoi de l'immigration, d'arrêt de l'immigration, va être suivie au début du gouvernement Barre, dans les années 75, 74, 75, 76, etc.
Vous rappelez aussi, Dominique Manotti, dans Marseille 73, des ratonnades de 1971. Alors ça, c'est un fait historique et il y a très peu de choses à lire dessus suite à la décision de Wari Boumediene, président algérien, donc de nationaliser le pétrole le 24 février, donc 71.
Oui.
C'est pareil, vous parliez tout à l'heure du déni qui serait presque une composante de la culture française. Là, c'est pareil, ce qui se passe en 71, en fin de compte. Autant sur 73, il y avait eu un reportage qui était passé à la télévision,
oui.
Tout ça, mais sur 71, c'est quelque chose qui est tombé dans l'oubli, quoi.
Oui, non, mais c'est la haine, c'est la haine. Ils nationalisent le pétrole, on tue des Algériens.
Et puis, vous l'avez dit, y a aussi le fait qu'on ne se remette pas de la défaite de la guerre d'Algérie, mais toujours...
Ah oui.
Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on ressent énormément dans le livre. Il y a beaucoup de personnages dont on sent qu'ils sont... qu'ils ne s'en remettent pas, puis qu'ils ont encore des comportements de colons, y compris en France. Je pense à ce personnage de pauvre jeune femme là, qui est une victime, en fait. Hein. C'est incroyable ce qui lui arrive, quoi.
Oui. Ah non, mais c'est si vous voulez, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est extrêmement marquant. D'ailleurs, dans le documentaire dont vous parlez, et que, évidemment, j'ai vu et dont je me suis inspirée, c'est évident, y a une chose qui m'a énormément frappée, c'est qu'à la fin du documentaire, les réalisateurs, c'est un documentaire qui date de 2004 ou 2005, quelque chose comme ça, ils vont interviewer des pieds noirs qui sont en train de manifester pour obtenir un certain nombre de subventions. On est en 2004, hein. Et il leur pose un certain nombre de questions sur les Algériens, la main-d'œuvre immigrée, sur tout ça. Et ces gens de 2004 ont exactement les mêmes réponses que les pieds noirs de 72. Exactement. C'est poignant. C'est poignant. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une culture qui a marqué très durablement. Très durablement. Une culture de coloniaux, enfin.
Nous ne sommes peut-être pas racistes, mais en habitant à côté de ces gens-là, nous devenons. Moi, je le deviens.
D'ailleurs, venez ici un jour d'une fête algérienne, vous verrez les moutons qui se promènent. Monsieur, on se retrouve en Algérie.
Vous voulez qu'on les aime, ces gars-là ? Mais non, mais qui les aime ? Le pape, s'il le veut, mais qui nous foutent la paix avec ces gars-là, qui les embarque dans leur pays.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque je les ai connus.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Marseille 73.
Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix. Des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les
enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.
Vous rappelez dans le livre hein, aussi, hein, dans Marseille 73, que selon Pompidou, donc la France n'est pas raciste. Voilà, c'est la déclaration de Pompidou. Mais qu'est-ce qu'on peut penser aussi des gaullistes? Parce qu'en fin de compte, à partir de, à, disons, le général de Gaulle, à partir d'un moment, il renoue des amitiés, on va dire, plus que douteuses quand même avec l'extrême droite aussi.
Bien sûr, mais si vous voulez, c'est voilà, on est en plein dans le... Comment je pourrais dire, je sais pas. On est en plein dans ce qui fait la spécificité française. Il fait quand même son coup d'État en 58 sur la base de l'Algérie française. Bon, le général de Gaulle. Le général de Gaulle se présente comme celui qui va assurer la victoire. Bon, il a un sens politique. Et plus de personnalité que la gauche qui était arrivée au pouvoir en 56 sur la base de la paix en Algérie et qui a fait la guerre, les services spéciaux, l'envoi du contingent. Il a plus de personnalité, donc il se rend assez rapidement compte que c'est pas possible et il va changer de politique. Bien. Mais il couvre totalement... les résidus de la bataille d'Alger, qui commence un petit peu avant lui, mais qui se continue ensuite, il couvre complètement les horreurs de l'armée française, parce que c'est quand même des horreurs. Vous savez que ce sont nos parachutistes de Bijar qui ont inventé le fait de jeter des personnes vivantes depuis des avions dans la mer.
Ben non, je le découvre. Je le découvre.
Et qu'ils ont été ensuite réemployés par les Argentins comme consultants.
Ça, je le savais, oui. Ça, c'est un fait assez connu. Ouais.
Ben oui, c'est parce qu'ils avaient mis la méthode au point avec les Algériens. Ben on n'en parle pas beaucoup. Bon, donc tout ça, De Gaulle le couvre. Ouais. De Gaulle le couvre et toute une part des gaullistes sont ces gens-là. Donc le gaullisme est un phénomène d'une extrême complexité. D'une extrême complexité. Et ce qui est très très frappant aussi, c'est le fait que dès l'origine, autour du gaullisme, il y a le sac. Le gaullisme, depuis, si vous voulez, depuis sa création dans l'après-guerre, le RPF, a peu d'adhérents. Donc son parti politique a besoin d'un très fort service d'ordre. Il y a SO qui est très très musclé et qui va être une des bases de fondation du SAC. Mais le SAC, c'est aussi le lieu où... Se nouent des alliances douteuses avec le banditisme et la partie la plus pourrie de la police française. Donc le gaullisme a toujours été une drôle de création. Une drôle de création.
On va rappeler hein, le SAC, le service d'action civique, qui a eu un dirigeant quand même, bon, qui a été dissous suite, parce qu'ils se sont un peu entretués, mais qui a été dirigé par Charles Pasqua quand même, qui était un peu le dirigeant historique du SAC, quoi.
Oui, qui a été un des dirigeants historiques du SAC. Un des. Le plus important, l'homme qui est en sous-main dirige le SAC, c'est Focard.
Monsieur France-Afrique aussi.
Oui, exactement. C'est lui qui dirige le SAC en sous-main. Il n'a jamais un poste de responsabilité, mais le véritable patron du SAC, c'est lui. Mais Pasqua a été secrétaire général adjoint, oui, absolument. Oui, oui.
On peut dire aussi, en lisant votre ouvrage, donc Marseille 73, hein, que, que les mêmes causes produisent les mêmes effets, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser. C'est-à-dire que dans Marseille 73, il y a l'agression mortelle d'un tramino hein, qui se fait égorger en fait, par un Algérien qui est fou en fait, et qui ne se maîtrise pas, enfin, qui est un type qui a un problème, qui a une pathologie mentale. Et ça déclenche derrière toute une vague de crimes. Et aujourd'hui, on a, je pense que d'autres médias ont dû vous en parler, mais on ne peut pas faire autrement qu'y penser, ce chauffeur de bus à Bayonne, oui, qui est tué, et tout de suite, l'extrême droite s'empare de ce fait divers, relaye tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et s'engouffre là-dedans pour de nouveau attiser la haine. C'est vraiment, j'ai envie de dire, si je veux être provocateur, c'est presque dans les gènes de l'extrême droite.
Ah mais ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est dans les gènes de l'extrême droite, on est d'accord, mais là où c'est dramatique, c'est que c'est manipulé par une grande part des partis politiques français. Avant chaque élection présidentielle, vous avez un certain nombre de faits divers de ce type montés en épingle, parfois complètement fabriqués. Souvenez-vous en 2002, l'histoire du vieux là, qui avait été soi-disant agressé violemment dans sa maison, etc. Vess, je crois, il s'appelait, je ne me souviens plus très bien de son nom, mais juste avant les élections, c'est un mécanisme utilisé, c'est une constante de la vie politique française, ça. Et c'est dramatique, c'est complètement dramatique. Et si vous voulez, là, en 73, alors dans un roman, on ne peut pas mettre tous les faits réels, hein, c'est tellement, il y a tellement de choses. Je vais vous dire ce qui était vraiment arrivé à cet Algérien, celui de 73, donc, qui a assassiné le chauffeur de bus. Il était en France, il travaillait en France, il avait un boulot fixe et gagnait régulièrement sa vie, on n'avait jamais entendu parler de lui. Et il a été agressé un an et demi avant les faits. Il a été agressé à la hache par quelqu'un qui lui a volé ses économies. Bon. Et qui lui a défoncé le crâne à la hache. Il a été hospitalisé avec des épanchements sanguins énormes dans le cerveau. Et il a été soigné, il a été opéré à plusieurs reprises, trépané et opéré du cerveau à plusieurs reprises. Et il est resté un an à l'hôpital. Et ce type ne s'en est jamais remis. Et il a été relâché, puis réintégré dans un hôpital psychiatrique, puis remis dans la vie courante. Et ça a fini comme ça. C'est un cas totalement, comme si vous voulez, c'est tout à fait, enfin, c'est assez amusant, enfin amusant si on veut, mais de lire la presse régionale à l'époque. C'est-à-dire que il commence le Provençal, qui est le journal médian, on va dire, qui est le journal de fer, commence par dire bon, il a été trépané et il est très atteint sur le plan. Il a jamais récupéré un fonctionnement normal. Et puis ça râle. Et deux jours après, il écrit bon, c'était un faux bruit. Il n'a jamais été trépané. Non, il a vraiment tué parce que c'est un Algérien, quoi. C'est terrible. C'est une utilisation systématique et très dangereuse, parce qu'elle suscite évidemment des réactions populaires. Bon, et là, en ce moment, ça se déchaîne de façon incroyable. Incroyable. Bon, il y a eu cette histoire aussi de la jeune fille qui a été tondue et séquestrée par sa famille. Bah, bien sûr, c'était des islamistes. Hein. Alors, bon, c'était pas des islamistes, c'était des musulmans. Mais bien sûr, c'était des musulmans, dont des arriérés, donc des salauds, donc des trucs, donc des machins. Bon, et l'histoire, elle est plus compliquée que ça. À chaque fois, les histoires sont beaucoup plus compliquées, mais ça sert de catalyseur, quoi. C'est terrible.
Bah d'ailleurs, on voit aujourd'hui avec cette histoire de vocabulaire là, de Darmanin avec l'ensauvagement, et puis dans le livre, quand on lit les slogans aussi de la bande d'Asensio, qui sont les mêmes que ceux du Front National aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes chez nous, on est chez nous, c'est la même chose, quoi.
Nous sommes chez nous, rentrez chez vous. Cela adressé à des Français depuis la troisième ou quatrième génération.
Nos enfants, ils sont là aujourd'hui. Il faudrait bien qu'ils sachent pourquoi on est ici, pourquoi on est venu et comment on est venu, dans les quelles conditions qu'on a travaillé.
En ce moment-là, nous, on n'a pas le choix. Quand on vient, quand on nous propose un boulot, même, je m'excuse l'expression, même dans les chiottes, on va travailler.
Les hommes se comportent comme des porcs.
De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts.
Porcherie, porcherie.
Vous écoutez Dominique Manotti, auteur de Marseille 73, paru dans la collection Equinox aux éditions Les Arènes, au micro de Culture Prohibée.
Porcherie, porcherie. Prostitution organisée, putréfaction gerbénosée.
Le diamant crève les poissons pile, la tension monte et tire à strip.
Qui m'a surprise dans le travail sur le roman, parce que évidemment très vite j'ai été surprise par la ressemblance avec toute une série d'éléments actuels, mais il y a une chose aussi qui m'a véritablement interrogée, c'est que dans la période d'avant l'indépendance, on ne sait pas comment nommer les Algériens, nous les Français. On ne peut pas les nommer les Algériens puisque l'Algérie n'existe pas. L'Algérie n'existe pas, il y a 4 départements français. Bien. On ne peut pas les nommer les Français parce que tout le monde sait que ce ne sont pas des citoyens français de plein droit. Ils n'ont pas les mêmes droits que les Français. Alors comment on les nomme ? On ne va pas les nommer les Arabes parce qu'on sait qu'il y a les Kabyles. Eh bien, on les nomme les musulmans. C'est-à-dire que cette république laïque désigne toute une partie de la population par sa religion. Et aujourd'hui, quand on vous dit islamiste, tout le monde pense musulman et donc arabe.
Vous parliez là tout à l'heure, enfin il y a quelques minutes, de la presse régionale, mais vous citez aussi dans votre ouvrage, qui est très documenté, hein, qui cite énormément de sources, d'articles, des coupures de presse, enfin, des trucs incroyables. 14 septembre 1973, le Nouvel Obs fait paraître un sondage qui dit « Peut-on vivre avec les Arabes ?» 62% des sondés répondent non. Et puis, moi, ce titre de Paris Match que vous citez, il est incroyable. Enfin, incroyable au sens littéral du terme. Hein. « Les bicots sont-ils dangereux ?» Ça fait froid dans le dos, en fait, de lire des choses pareilles.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est l'ambiance. On est en 73. Hein. La guerre est finie depuis longtemps. Mais c'est profondément, si vous voulez, c'est profondément dans la culture française. Il faut tourner autour de cette histoire, il faut réfléchir, il faut comprendre. Bon, vous savez bien sûr qu'on n'a pas parlé de guerre d'Algérie sur le coup. Quand un journal parlait de guerre d'Algérie, il était censuré. C'était de maintien de l'ordre. Bon, on n'a pas parlé de guerre d'Algérie avant les années... on parlait aussi des événements, hein, maintien de l'ordre et événements. Mais guerre d'Algérie, il a fallu attendre les années 90, la fin des années 90, pour qu'on parle de guerre d'Algérie. Donc, on n'a aucun travail de mémoire sur ce qui s'est passé et sur les conséquences sur la structure de la nation française. Aucun. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique. Ce qui enracine, évidemment, les réactions de l'extrême droite, le racisme de l'extrême droite, ce qui le justifie, ce qui l'enracine, et ce qui frustre considérablement toute une partie de la population française qui a vécu aussi la guerre d'Algérie, qu'il a vécu autrement que les pieds noirs et qui n'a pas sa place dans l'histoire de France.
D'ailleurs, vous citez un communiqué de presse du préfet, dans le livre, hein, vous citez un communiqué de presse qui parle de légitime colère suite au meurtre du chauffeur de bus.
Oui, absolument.
Ça quand même, pour calmer les esprits, pour apaiser les tensions alors qu'une manifestation se prépare, il y avait peut-être mieux, non, à faire ?
Oui, non, mais c'est évident. Il y avait beaucoup mieux à faire. Surtout qu'il fait son communiqué juste après l'édito du Méridional, qui est un appel au meurtre pur et simple.
Enfin, à l'époque, la police, c'est pas simple non plus. Parce que d'ailleurs, dans le livre, vous mettez un petit glossaire à la fin pour qu'on s'y retrouve un peu, vous expliquez un peu la situation. Parce qu'il y a quelque chose dont on parle assez peu aussi, c'est la guerre entre les Corses, les pieds noirs dans la police de Marseille. Enfin, ça a l'air d'être un beau bordel, quoi.
C'est un beau bordel. Absolument. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'y retrouver et je nageais dans toutes les sources que je trouvais, je nageais. Et je m'en suis tirée parce que j'ai eu la chance de rencontrer Daniel Thierry, qui est une commissaire à la retraite, qui écrit aussi des polars et qui a travaillé un petit peu à Marseille. Donc, et puis surtout qui a travaillé, qui a fait des livres sur la police, des livres historiques sur la police, et qui connaît bien les structures, etc., et qui m'a aidé à m'y repérer. Oui, c'est un bordel absolument monstrueux. Monstrueux.
Et comme un peu, on vient d'en parler un peu à l'instant, mais votre livre, donc, il est très documenté, il est très, ça n'en reste pas moins, j'y reviendrai après, un polar haletant, enfin voilà, dans votre style habituel, très addictif, hein, voilà, on va en parler juste après, mais c'est aussi un bouquin qui a pris 2 ans, ça vous a pris 2 ans de votre vie pour l'écrire. C'est quoi votre méthode, vous qui êtes historienne à la base, je le rappelle, hein, comment vous bossez pour écrire un tel bouquin où vous nous dites en plus que vous avez eu quand même des difficultés à trouver de la documentation sur certains sujets?
Ah ben, je bosse, si vous voulez, je bosse un peu, beaucoup, comme un historien, mais avec quand même une très grosse différence, c'est que je ne travaille que sur des sources facilement atteignables, hein. J'ai pas du tout le temps de travailler dans les archives. Vous savez, dès qu'on se met à travailler dans les archives, on y passe un temps fou. Moi, je travaille sur ce qu'on appelle les sources de seconde main, c'est-à-dire je travaille sur les publications, les choses publiées. Alors, j'ai une source première, très importante, c'est la presse. La presse, si vous voulez, il y a 2 façons de la lire. La presse au jour le jour, bon, c'est très important pour se faire former ses opinions, réfléchir, comprendre l'actualité, tout ça. Mais on a une lecture qu'on va dire, si vous voulez, en quelque sorte discursive. C'est-à-dire qu'on passe continuellement d'un jour à l'autre. On n'accumule pas. Et puis, il y a une autre façon de la lire, ce que je fais, moi, quand je choisis un sujet et que je me mets au travail, c'est que je lis la presse sur un an. D'affilée, je prends un titre de journal et hop, je lis tout sur un an. Bon. Là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une énorme quantité d'informations. Simplement, elles ne sont pas accumulées. Vous voyez ce que je veux dire ? On les oublie au fur et à mesure qu'on en a connaissance. Donc, ma première source à moi, c'est la presse. Ma deuxième source, c'est que je lis tout ce que les sociologues, historiens ont fait sur le sujet. Là, dans le cas précis de Marseille 73, j'ai d'abord regardé le livre sur le racisme, le livre noir du racisme, qu'ont fait Dugrand, Panzani et Dissler, bon, qui est paru au début des années 80, bon, qui n'est plus en vente aujourd'hui, mais que j'ai trouvé d'occasion. Bon, ce livre donne énormément de choses. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce que vous découvrez, c'est que l'oubli, c'est vraiment un oubli systématique. Des choses ont existé. Des sources ont existé. Comme pour la guerre d'Algérie, les sources, elles existent, on les bloque, on ne les communique pas, secret défense, tout ce qu'on veut, mais elles existent. Donc, si vous voulez, il y a eu ce livre, il y a eu le documentaire qui a été fait très largement à partir de ce livre, et puis il y a tous les travaux de sociologues, d'historiens qui commencent à beaucoup s'accumuler maintenant quand même. Et enfin, dernier point, je vais interroger les survivants. J'ai fait pas mal d'interviews.
D'accord.
D'accord. Oui, et je dois beaucoup à Panzani, qui était journaliste à l'époque et qui m'a raconté plein de petits faits de la vie quotidienne dont je me suis régalée.
et qui ont nourri l'ouvrage, évidemment.
Absolument, absolument.
Depuis l'enterrement de ce chauffeur de bus, voyez-vous, il y a eu déjà un jeune de 16 ans qui a été assassiné sauvagement devant chez lui. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait, ce jeune, dans ce crime, dans l'autobus. Alors, il y a eu aussi le type à 21 ans, en plein public, il a été sauvagement assassiné.
Le comité de défense des Marseillais est né d'un réflexe d'autodéfense de la population marseillaise face aux exactions de plus en plus nombreuses d'une pègre nord-africaine.
Je pense qu'une des difficultés les plus grandes, c'est que les gens sont très mal informés sur les raisons pour lesquelles les travailleurs immigrés sont venus en France.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Je le disais à l'instant, hein, comme tous vos autres livres, Marseille 73, Dominique Manotti est très addictif, stylisé, avec une écriture toujours à couper au couteau, il n'y a pas de gras. Et comment vous faites quand vous écrivez ? Vous écrivez un premier jet qui fait 600 pages, vous le ramenez à 400 pages, vous faites comment ? Ou alors c'est tout de suite, ça vient comme ça, vous écrivez comme ça, c'est tout de suite, c'est du Anthony Mann, voilà, sur papier, quoi, tout de suite, voilà.
Non. non, je travaille beaucoup. alors, j'écris un premier jet, oui. Ça, j'écris un premier jet absolument sans me poser le problème du style. J'écris un premier jet focalisé entièrement sur l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, 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 oui.
Bon, voilà. Ensuite, alors, ce qu'il y a, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas forcément complètement au bout directement de mon premier jet. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'écris, il y a des scènes qui me plaisent, qui m'accrochent, et que je recompose au moment même où je les écris. J'écris un premier jet, puis là je m'arrête, je sens qu'il se passe quelque chose, je réécris la scène avant de continuer. Donc j'ai des réécritures en cours de route de premier jet. Mais le premier jet est toujours sans regarder le style. Ensuite, si vous voulez, quand j'ai... mon premier jet d'histoire. Je travaille le style. Bon. Je coupe énormément. Je bricole aussi, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui changent de place. Et puis, je le fais lire à l'éditeur. Et dans le cas présent, l'éditeur m'a donné un conseil très important pour l'organisation du récit, qui était, si vous voulez, ben moi j'étais complètement dans mon sujet, et j'ai commencé, alors je traditionnellement, dans tous mes romans, j'essaye toujours de commencer par une scène très forte. Je suis les recommandations de Billy Wilder qui dit il faut saisir le spectateur à la gorge dès les premières minutes et ne plus le lâcher. Voilà. Bon, et j'avais commencé le roman par la scène de l'enterrement du traminot. Et là-dessus, bon, Aurélien Masson me dit. C'est pas compréhensible. C'est-à-dire que je ne me rendais pas compte à quel point tout ce qui, moi, fait partie de mon histoire n'existe plus pour les gens de 40 à 20 ans, de 20 à 40 ans, quoi. Ça n'existe plus. Il me dit, même l'OAS, ils vont pas forcément savoir ce que c'est. Donc, tu peux pas commencer par une scène qui n'est forte que si on comprend ce que les gens se disent. Il avait totalement raison. J'ai eu ensuite des discussions, je me suis aperçue à quel point, effectivement, ces années-là ne sont plus connues. C'est-à-dire que le mécanisme d'occulter le passé a vraiment fonctionné, quoi. C'est vraiment un passé occulté. Donc, j'ai remanié tout mon début et j'ai retrouvé, si vous voulez, j'ai refait tout le début en essayant, parce que là, ça devient très très compliqué, de permettre au lecteur de saisir toute une série de notions très complexes sans jamais faire de long développement historique. Il faut que ça vienne par tout petit bout dans le cours de l'histoire. Donc c'est vraiment compliqué. Ça a été la très grosse difficulté du roman. J'espère que je m'en suis sortie. Mais les 30 premières pages ont été réécrites pour une introduction petit à petit dans la situation des années 73. Voilà. Donc, si vous voulez, ça commence pas en trombe, comme d'habitude, mais il semble que c'était obligatoire.
Oui, oui, c'est une remise dans le contexte, clairement. Ouais, un peu comme ouais. On a fait au début de cet entretien, le début de l'ouvrage, là. Puis vous le disiez à l'instant, le livre gorge d'acronymes, en fait, qui vont parler à des gens, on va dire, malheureusement plus vieux comme moi, comme l'OAS, par exemple, Organisation de l'Armée Secrète, ou l'Union des Français Repliés d'Algérie, l'UFRA. Mais moi, j'ai découvert, par contre, je connaissais pas le MTA. C'est vraiment le mouvement des travailleurs arabes, donc, qui initie, donc, suite à l'assassinat de Ladj Lounès, un mouvement de grève assez, assez unique en France. Et ça, moi, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découvert grâce à votre ouvrage.
Oui. Et je vais vous dire, on est en plein dans les problèmes actuels d'organisations séparées. On est en plein dedans. C'est-à-dire, en gros, les syndicats français de l'époque reproduisent le discours actuel qui est « on est universaliste, donc vous n'avez pas le droit de vous organiser de façon séparée. Vous divisez la classe ouvrière. » Mais qu'est-ce que vous, les syndicats nationaux, vous faites contre les assassinats, etc. Eh ben, on fait des pétitions. Donc, rien. Et on se trouve exactement dans la situation actuelle. Je l'ai vécu aussi pour la question des femmes. Vous savez, on fait l'apologie du MLF, de tout ça. Dans les années 70, quand les femmes ont commencé à s'organiser séparément, on leur a craché dessus. Hein. Oui. On leur a craché dessus avec exactement les mêmes arguments. Qu'est-ce que vous avez à faire à vous organiser sans les hommes ? Mais c'est impensable.
Quelle idée.
Séparatiste.
Ouais, c'est séparatiste. Ouais. En même temps, il y a un critère nouveau qui est apparu aujourd'hui aussi. C'est le fait qu'il y a assimilation à des formes. Là, je ne parle pas pour le mouvement féministe, mais par exemple, si je fais référence au MTA, il y a assimilation aussi. Enfin, assimilation, peut-être pas le bon terme, vu de ce dont on parle dans l'ouvrage, mais le côté communautariste aussi, qui est quelque chose qui est souvent mis en avant aussi par les détracteurs de, on va dire, de ce type de mouvement.
Oui, oui, oui. bon. Hier, je suis allée déjeuner dans un bon restaurant dans un quartier, dans le 16e arrondissement de Paris, à une terrasse, un endroit délicieux. Il n'y avait que des blancs. Classe très supérieure, séparatiste. Séparatistes, et ils ne sont pas mélangés.
Ça rejoint aussi les travaux de Monique Pinson-Charlot, tout ça. Enfin bon, voilà, c'est aujourd'hui,
oui,
aujourd'hui c'est des choses sur lesquelles... c'est pareil, il commence à y avoir de la matière aussi. On le voit pour l'accès à la culture aussi, qui n'est pas toujours une question d'argent.
Oui, mais le monde culturel est quand même celui où ça commence à percer, hein. Beaucoup plus que l'entreprise et le monde des affaires. Mais là, dans le monde culturel, enfin, je veux dire, quand même, il y a un certain nombre de cinéastes, d'écrivains. J'entendais l'autre jour un interview de Mabankou. Oh, j'ai adoré. Et j'imagine les réactions d'un certain nombre de mecs du FN. Ils doivent en être malades. Mabankou dit, c'est moi. Moi, je suis prof de littérature française aux États-Unis. Moi, j'enseigne Victor Hugo. Ben voilà.
Et il est tout à fait légitime. Voilà.
Et il est tout à fait légitime.
Voilà. Plus que certainement ses détracteurs.
Il n'y aura plus de séparatisme quand tout le monde sera légitime, quoi. Mais c'est pas le cas, et cette histoire de séparatisme, moi ça me ramène tellement aux premières commissions femmes qu'on a fait dans la CFDT et où on s'est fait cracher dessus, vraiment. Ça m'amuse.
Qui pourtant à l'époque, c'est pareil, quand vous étiez à la CFDT, précisez aussi à nos auditeurs que c'était un syndicat révolutionnaire à l'époque. Voilà.
Ah oui, très 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 ouvert, oui, très ouvert. Ce qui fait qu'on a pu faire nos commissions et qu'elles ont eu un certain nombre d'impacts dans les années 70. Après, c'est fini. D'ailleurs, elles n'existent plus.
Moi, je ne suis pas raciste, mais enfin, il y a vraiment des choses.
Dominique Manotti au micro de Culture Prohibée.
Dans votre livre, c'est Malek qui est assassiné. Et c'est toute la vie d'une famille qui bascule, donc dans Marseille 73. Et dans cette famille, je trouve qu'il y a un très beau personnage, c'est celui du patriarche, qui sort ses décorations au moment opportun. Je trouve que c'est un personnage très émouvant et qui représente cette histoire de France que certains veulent oublier. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que vous l'aimez beaucoup, ce personnage, parce que il est très peu présent dans le livre, mais il est magnifique à chaque fois.
Oui, je l'aime beaucoup. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est à quel point il est déchiré par les histoires algériennes. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas du tout en parler à ses enfants, si vous voulez. C'est que lui, il est parti et les autres se battent. Voilà, donc...
Mais il a encore de la ressource.
Non, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup.
Bon, pour parler de personnages que vous aimez beaucoup, et je ne peux pas ne pas vous poser la question, vous avez deux personnages fétiches qui ont même fini par se rencontrer, d'ailleurs, dans Racket, en 2018.
Oui,
c'est Théo Dacquin et Nora Gozali. Est-ce qu'ils vont... Qui va revenir dans le prochain livre? Est-ce que ça va être Théo Dacquin? Est-ce qu'on va continuer à explorer la jeunesse de Dacquin? Ou est-ce que c'est un peu trop tôt? Parce que là, vous nous faites saliver en disant qu'il part... bon, voilà, je ne vais pas dire où, je vais laisser les lecteurs découvrir, mais on a toujours envie de le suivre, Dacquin, partout où il va, en fait. C'est tellement un personnage atypique, attachant et atypique aussi.
Alors, écoutez, je peux vraiment pas vous dire parce que je sais pas.
D'accord.
Je sais pas parce que j'avais pas du tout, quand j'ai commencé à écrire, j'avais absolument pas le projet d'avoir un personnage récurrent. Bon, je vais vous dire, comme lectrice, j'aime beaucoup les personnages récurrents. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont, pour le lecteur, extrêmement confortables. On rentre chez soi, hein. Quand on prend un Maigret, on rentre chez soi, quoi. La fine à l'eau, le sandwich, Madame Maigret, le pot-au-feu, tout ça. On n'a pas besoin de, si vous voulez, Maigret, on n'a pas besoin de description psychologique du personnage. On a un certain nombre de repères et voilà, et on rentre à la maison. Mais en tant qu'auteur, je ne suis pas une fanatique, en fait, du personnage récurrent. Parce que ce que j'aime, c'est que le personnage pivot du roman soit une espèce de mise en chair du milieu qu'on essaye de décrire, soit absolument, pas parachuté, mais complètement une expression du milieu et du temps. Du récit. J'ai repris Dacquin dans Or Noir et là, dans Marseille 73, parce que, si vous voulez, je travaillais sur Or Noir, sur les questions de pétrole, et je ne savais absolument pas où situer mon roman. Bon, alors, j'ai fini par tomber sur Marseille pour des raisons de fric et de création de fric disponible, celui de la French Connection et de grands ports pétroliers de Foss. Et là, la difficulté, c'est que je n'arrivais pas à avoir un regard marseillais sur Marseille. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais au niveau de l'âge, ça correspond à Dacquin, 73, il a 27 ans. Si je reprends ce personnage que je connais bien et que je le mets dans ce milieu où il est complètement inapproprié, je vais avoir mon regard sur le milieu en question. Et donc, à partir du moment où je me suis décidée à avoir le regard de Dacquin, mon histoire s'est mise en place beaucoup, beaucoup plus facilement. Voilà pourquoi je l'ai repris dans mes deux romans sur Marseille. Mais je ne sais pas du tout, d'abord, je n'ai pas encore choisi mon prochain thème de roman, donc je ne sais pas si je vais avoir besoin de lui ou pas, et je ne sais pas quand est-ce que ça va se situer. Enfin, pour l'instant, je ne sais rien. Donc je ne sais pas si je vais le reprendre. Mais vous voyez, je ne démarre pas du personnage récurrent. Est-ce que je suis claire là?
Complètement, oui. Vous partez de faits que vous avez envie d'explorer, puisque Bah, puisque, comment dire, vous citez souvent, écrire sur un sujet, c'est résister quelque part, c'est continuer à militer, voilà. Et vous choisissez le sujet, et puis après, le personnage s'impose de lui-même, quoi. En gros.
S'impose ou ne s'impose, voilà. Alors, Dakin s'impose ou ne s'impose pas. Noria s'impose ou ne s'impose pas. Et voilà.
mais peu importe, de toute façon, qui sera le prochain personnage et puis quel sera le prochain ouvrage, puisqu'on n'est jamais déçu de l'attente. Voilà. À chaque fois, on passe un bon moment à lire vos ouvrages. Et je rappelle aussi, vous parliez d'Or Noir, qu'à l'époque, on avait échangé sur le livre dans l'émission. J'invite les auditrices et auditeurs à écouter cet entretien. On avait abordé ce livre, donc Or Noir de Dominique Manetti, toujours collection Equinox aux éditions Les Arènes. Et puis, je rappelle, donc Marseille 73. La même collection, Equinox, aux éditions Les Arènes. Et excellent roman noir, bien sûr, que j'invite tous les auditrices et auditeurs à lire de ce pas. Et on vous remercie à nouveau pour la qualité de ces échanges, Dominique Manetti.
Non, moi, tout le plaisir était pour moi.
Pourquoi avant, il n'y avait pas tous ces regards méchants, tout cela, tous ces mouvements? On est mal regardé, on est repoussé par tout le monde.
Il était doux, il était ja, il était jean. Voici l'histoire de celui qui portait pas de jean, mais des tissus bariolés de l'Afrique, des sandales et de plastique.
Il vivait là, au milieu des bâtiments, et racontait à tue-tête des boniments l'histoire d'un pays qui raconte aux enfants que c'est nous les méchants.
C'est nous les plus méchants.
Il disait, c'est un pays où t'es libre. En gros, enfin selon la couleur de ton chapeau. Un pays qui veut nous protéger des malheurs. Il veut être le gendarme, c'est nous les voleurs.
L'erreur est humaine, mais l'humain.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Alors assisté pour la technique de Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne. Et the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine.
Ils nous font marcher sur la tête et quand ils pensent,
ils ont la tête,
la plus honnête, mais méfie-toi, c'est le képi de la planète.
L'erreur est humaine, mais l'humain. L'erreur est humaine, mais l'humain. L'erreur est humaine, mais l'humain.
Je vous le dis, ils sont dedans. Mon peuple à moi a bien plus de 1000 ans. Mon nom n'a pas pris une ride. Il a sa trace gravée dans les pyramides.
Avant qu'ils se ramènent ou qu'ils nous crèvent, avant qu'ils nous pompent l'oxygène et la sève. Au nom des thunes, au nom du fils, au nom du Nasdaq, au nom du bénéfice.
Nous on savait que si la thune a pas d'odeur, pas la sentir, c'est passé un mauvais quart d'heure. Elle disait ça, cette face de paumée, en chantant comme Falamé.
Comme Falamé, erreur est